Midi 25 minutes avec Nathalie Normandeau. Revenons brièvement, puis après ça, on passera au sujet d'actualité un peu plus politique, très près de tes préoccupations.
Oui.
Dans l'histoire de l'éclipse médiatique, dis-moi davantage.
Ben, en fait, une éclipse médiatique, là, c'est quand une nouvelle balaie à peu près tout ce qui se retrouve dans l'actualité. Et c'est ce qui s'est passé dans les premières minutes où on a appris la nouvelle. Et là, ça continue. Là, toute la journée, on va parler de ça. Demain, on va parler de ça. Il y aura conférence de presse, d'ailleurs, je crois, de l'Organisation du Canadien. Puis ça, je vais te dire, ça fait un peu de bien. Pas de savoir que Claude Julien est congédié, mais qu'on change un peu le sujet de conversation, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de pandémie. Hein, tu y as référé avant la pause. Puis on est là-dedans tous les jours. Alors, ça fait du bien un peu de changer de conversation. Et là, bien, tout de suite, là, tu sais, déjà, Claude Julien fait partie du passé. Dominique Ducharme va déjà il a été nommé là, par intérim. Là. Alors, le gars, il est tout de suite en opération. Alors, c'est assez fascinant, la vitesse avec laquelle ça se retrouve et l'impact aussi que ça crée. Tous les grands réseaux d'information télé en ont parlé, se sont mis tout de suite sur la nouvelle à la commenter, les réseaux sociaux, les radios. Écoute, c'est devenu, en quelques minutes, là, une espèce de folie là, sur le plan médiatique.
Absolument. Dominique Ducharme va vivre des moments de stress assez importants, un peu de pression à venir
lui. Non, mais tu vois, j'ai fait une petite recherche là, durant la pause. Te souviens-tu du congédiement de Gérard Gallant? Ça s'est passé en janvier 2020. Le gars était coach des Golden Knights à Vegas. Mm-hmm. Puis il a été congédié, subito presto. Et il a déclaré « J'ai été déçu, surpris, mais je comprends la business du hockey, que des choses doivent parfois changer. » Bien, c'est ça le business du hockey. Ça me fait penser un peu à la politique, cher Robert. Tu sais, quand lorsqu'un ministre perd sa limousine, perd ses responsabilités, là, puis se retrouve, redevient député, bien, ça se passe dans un claquement de doigts. Là. La veille, t'es ministre, t'as ton chauffeur, ta limousine, puis le lendemain, c'est terminé. Tu comprends?
Ben, parlons-en, d'ailleurs, de limousine et de ministre et de remaniement ministériel. Benoît Charette, qui devient ministre responsable de la lutte contre le racisme. Hey, c'est pointu comme ministère?
Oui, c'est pointu. Puis tu vois, c'est de façon anecdotique que François Legault qui a confirmé cette nouvelle ce matin. Puis il y a d'autres personnes qui ont été impactées par ce mini-remaniement. À une question d'un journaliste, parce qu'il faut... Je ne sais pas si tu le sais que le premier ministre François Legault est grand fan du Canadien de Montréal. Il commente souvent là, les victoires du Canadien sur son compte Twitter. Et il a dit, rassurez-vous, je ne serai pas le prochain coach du Canadien. Et il a fait sa conférence de presse au moment même où on venait d'apprendre que Claude Julien était congédié. Oui, alors, mini-remaniement ministériel, Benoît Charette, ministre de l'Environnement, hérite de ce portefeuille qui suscite déjà une certaine contestation. Alors, il devient le ministre responsable de la lutte contre le racisme. Rappelle-toi, Robert, on a parlé beaucoup, on a débattu beaucoup depuis les derniers mois de la question du racisme systémique. Hein? Est-ce qu'au Québec, on a du racisme systémique? Alors, il aura cette tâche de mettre en branle des mesures pour lutter contre le racisme.
Oui, mais on répond quoi à cette question-là, Nathalie?
Oui, bien moi, je vais te dire, moi, je trouve que c'est un débat pas inutile, mais je me dis, plutôt que nous enfarger dans est-ce que c'est du racisme systémique, du racisme d'État, du racisme endémique, est-ce qu'on pourrait commencer par dire, oui, il y a du racisme, mais comment concrètement on lutte contre ce racisme qui discrimine au quotidien des gens de couleur, des gens, toutes sortes de gens dans notre société qui ne méritent pas le traitement qui leur est réservé. Alors moi, j'ai une approche plutôt pragmatique plutôt qu'idéologique, même dogmatique sur la chose. Ouais. Je me dis, passons à l'action. T'sais.
Non, mais moi là, j'aimerais qu'on m'apporte des exemples. Il y a le racisme qui est peut-être vécu à Montréal, dans Notre-Dame-de-Grâce, mais moi, à Trois-Rivières, sur la rue des Forges, je peux te dire à la fin, je vis dans cette région-là depuis des années et des années. Mm-hmm. C'est rare que j'ai été confronté à des cas de racisme. Là.
Ben, okay? Tu vois, le ministre Benoît Charette vit avec une conjointe qui est d'origine haïtienne. Mm-hmm. Il a des enfants métissés, puis il racontait dit, le racisme, souvent, c'est subtil. Il a lui-même été confronté à du racisme. Par exemple, lorsqu'est venu le temps de chercher un appartement. On peut te discriminer parce que tu es d'origine haïtienne ou d'origine arabe, parce que sur la base de non seulement de la couleur de ta peau, mais de ta religion. Puis on ne te loue pas, par exemple, l'appartement que tu souhaites obtenir, justement là-dessus. On ne va pas te dire que c'est à cause de ça, tu comprends. Il y a aussi à l'emploi. T'sais, moi, je suis scandalisé, Robert, de voir qu'on a autant de chauffeurs de taxi au Québec, là, on parle de Montréal, mais il y en a à peu près là, dans toutes les grandes villes au Québec, qui sont ingénieurs, médecins, qui ont de grandes qualifications, enseignants, puis qui ne trouvent pas de travail, qui ne réussissent pas à percer le marché de l'emploi. Pourtant, ils ont les compétences et qualifications. Moi, excuse-moi, j'appelle ça du racisme et de la discrimination. Puis surtout dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, je trouve que c'est un gaspillage de talent incroyable.
Mais là, tu fais quoi? Tu fais de la discrimination positive dans ce temps-là pour combattre?
Mais ça se fait déjà, Robert. Ouais. Par exemple, au gouvernement, si tu es autochtone, handicapé, si tu es issu d'une minorité visible, souvent, il y a des postes dans la fonction publique qui sont réservés pour ces citoyens, tu vois. Alors, ça existe déjà. Mais la bonne nouvelle, c'est que Benoît Charrette est vraiment déterminé à passer à l'action. Alors, mais au-delà de, parce qu'on parle beaucoup de Benoît Charrette, mais il y a aussi une autre nomination, celle de Lucie Lecour, une députée moins connue, députée de la Plaine, qui devient ministre déléguée à l'économie. Mm-hmm. Et là, ce qu'on comprend, c'est que Pierre Fitzgibbon a besoin de renfort sur le plan économique. Parce que de quoi on va parler, Robert, après la pandémie?
Ben là, hein?
On va parler de relance économique. On va parler de création d'emplois, de création de richesses. Et ce qui m'a frappé ce matin dans le point de presse, le premier ministre a réitéré son ambition, et je cite, de réduire les écarts de richesse. Alors lui, ce qu'il veut, dans le fond, là, c'est que ces écarts de richesse je dirais pas qu'ils nous distinguent, mais qui frappent le Québec par rapport à, par exemple, au reste du Canada, aux États-Unis ou à d'autres pays dans le monde, on veut créer plus de richesse. On veut réduire cet écart-là pour faire en sorte qu'on en ait plus dans nos poches, puis collectivement, effectivement, on soit plus riche. Alors là, il dit, on a besoin, si c'est ça sa priorité, ça prend évidemment des bras, ça prend plus de ministres pour y arriver. C'est un peu le sens de sa nomination, de son annonce ce matin. Alors ça, c'est un mini remaniement.
Ouais. Allez, juste vite, j'ai pas eu l'occasion de les compter, là, mais à l'époque, là, la CAQ, l'ADQ, la CAQ, tu sais, plaidait en faveur d'un État qui était plus menu, si on veut.
Plus léger.
Plus léger, et avec le moins de dépenses. Son cabinet de ministre, là, il commence à être assez imposant.
Oui, c'est une bonne question. Ils sont certainement proches d'une trentaine, là, facile. Le plus grand cabinet de l'histoire, si ma mémoire m'est fidèle, c'est Bernard Landry. Il y avait 36 ministres. Il y avait des ministre d'État, puisque déjà, M. Landry, ministre d'État, on voit ça au fédéral, mais pas au Québec. C'est le choix qu'il avait fait à l'époque. Mais oui, dans tous les gouvernements, on a toujours choisi d'avoir un conseil des ministres plus petit. Mais c'est difficile, tu vois, Robert, parce que les responsabilités sont très, très grandes. La liste des priorités d'un gouvernement s'allonge de jour en jour et de semaine en semaine. Tu vois, par exemple, cette histoire de racisme systémique-là, c'était pas à l'agenda du gouvernement il y a 2 ans. Mais évidemment, cette question-là est apparue dans l'actualité. Et là, le premier ministre a été forcé de répondre à ces appels pressants qu'on lui a lancés, de justement trouver des solutions puis de poser des gestes concrets pour lutter contre le racisme. Encore une fois, qu'on l'appelle systémique, endémique au racisme d'État, l'important, je crois, c'est qu'on puisse passer à l'action. Alors ça,
une belle façon, oui. Nathalie, de se rapprocher de la clientèle historique des libéraux dans la région de Montréal. Je ne sais pas si ça va leur plaire, ça, que le gouvernement de M. Legault se lance dans la lutte au racisme qu'on dit systémique.
Bien, ça devrait plaire à certains, parce que tu vois, à Montréal, on parle beaucoup de profilage racial, mais j'entendais là, un peu plus tôt à RDI, il y a des gens issus de la communauté haïtienne, par exemple, qui se montrent déjà critiques en disant « c'est peut-être pas la bonne personne qu'on aurait souhaité ». Moi, je dis « écoutez, là, donnons la chance au coureur.
Ben oui,
moi, j'ai confiance en Benoît Charrette. Personnellement, c'est un de mes ministres préférés. Je le trouve absolument extraordinaire. C'est un gars qui est très humble dans son approche. Il est très efficace parce qu'il y a un gros ministère, là, l'environnement, lutte au changement climatique, développement durable. C'est pas évident comme ministère, mais il fait bien ça jusqu'à maintenant. Alors moi, j'ai confiance que le gars va réussir à relever le défi, d'autant plus qu'il vit au quotidien ce que ça représente, vivre en situation minoritaire avec sa conjointe et ses enfants. Écoute, il l'a dit ce matin, il a dit « Mes enfants, là, oui, ils ont été victimes de toutes sortes de sarcasmes à l'école, de commentaires désobligeants. » T'sais, il vit ça, lui. C'est pas une réalité qu'il ignore. Alors moi, dans ce sens-là, je me dis, là, c'est pas la couleur de la peau qui est importante dans le contexte actuel. Pour certains, ça va l'être. Ça l'est, mais pour moi, non. Moi, je me dis, écoute, on a un homme qui connaît ça, qui est rompu à ces tristes réalités de discrimination, de racisme, mais qui est déterminé à livrer la marchandise.
Non, mais Benoît Charette, il doit être bon. Il nous a fait oublier Mme Chassé.
Oui, oui.
Qui est à l'environnement. C'est quoi? C'est
oui.
la première question. Oui, la première oui. question qu'on lui avait posée, c'est-tu le plan vert? Ou, pouvez-vous nous décrire ou nous définir ce que Dieu. C'est que l'espèce
Tu sais, Robert, la politique, c'est pas fait pour tout le monde. Puis la première qualité d'un député, d'un maire ou d'un ministre, c'est la communication. Il faut que tu sois champion top catégorie en matière de communication parce que tu es comme un vendeur à tous les jours. Oui, tu sais, tu dois vendre ton message. Les politiques
dont tu es responsable. Les maudits journalistes qui veulent toujours t'enfarger.
Oui, les maudits journalistes, effectivement, qui ont toujours les petites questions pointues. Et puis, je les entendais ce matin là, poser des questions à Benoît Charrette. Là. C'était vraiment... dans le fond, tout était fait pour que le ministre s'enfarge, pour créer le malaise, tant souhaité souvent, par la faune journalistique. Mais ça n'est pas arrivé parce que c'est un ministre qui est prudent, puis qui est également, tant qu'à moi, qui est brillant, qui fait très, très bien son travail.
Hey, parlons de Yann Perrault. Hier, j'ai abordé la question dans le cadre de l'émission aujourd'hui. Yann Perrault, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est ce chanteur populaire qui a écrit une lettre où il s'excuse. Je ne sais pas comment on pourrait définir ça. Là,
oui.
Il s'est excusé, puis mea culpa. Puis, écoute, oui, j'ai été un gros colon dans ma vie, puis j'ai fait des affaires épouvantables. Ma blonde me pardonne. J'ai pas pris d'agence de communication pour écrire ma lettre. Je le fais avec mon petit cœur d'animal. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Et on verra pour la suite des choses. Certains pensent qu'il fait ça parce qu'éventuellement, il va vouloir se remettre en selle et entreprendre une série de spectacles.
Oui, bien, Yann Perrault, c'est pas le premier artiste qui a été, malgré lui, plongé dans une espèce de purgatoire et de polémique sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan médiatique. Son histoire, là, c'est qu'il a fait un spectacle aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a deux jeunes filles qui sont deux sœurs qui sont venues lui demander une photo. Mm-hmm. Il s'est permis de mettre la main sur les fesses des deux filles et il a tenu auprès des filles des propos très grossiers. Okay. Et ça l'a plongé, évidemment. Cette histoire-là a été dénoncée par Nora Villeneuve, qui est une des deux jeunes filles, sur Instagram, et son nom est apparu sur la liste de la page Facebook.
L'été passé, là.
Dit son nom, il y a 1500 noms de personnes, la plupart des hommes, mais il y a quelques noms de femmes qui apparaissent sur cette liste. Alors, moi, je me dis, écoute, là, à un moment donné, là, ces artistes qui s'excusent, parce que lui, c'est la deuxième fois qu'il s'excuse, il a reconnu qu'il avait tenu des propos déplacés. Ça fait 7 mois qu'il a mis sa carrière sur pause. Il a entrepris une démarche d'introspection. Je me dis, à un moment donné, là, écoute, il ne peut pas se faire raquirer tous les jours puis être condamné dans les limbes pour le restant de sa vie. Là. Le purgatoire, à un moment donné, il faut que ça finisse, d'autant plus que son dossier ne s'est jamais retrouvé en cours. En fait, la justice a été rendue sur les réseaux sociaux. Et Nora Villeneuve, évidemment, elle doute de la sincérité de sa démarche. Elle dit « ne m'a pas contacté avant de s'excuser sur sa page Facebook ». Mais moi, je lui réponds « mais lorsque vous avez, Mme Villeneuve, partagé cette histoire sur Instagram, est-ce que vous avez informé Yann Perrault avant ?» La réponse, c'est non. Alors, je me dis, tu sais, quand on voit ce genre d'histoire, légitimement, on peut se demander jusqu'où un artiste doit payer le prix pour des fautes ou des comportements déplacés qu'il a eus. C'est pas parce que t'es con un soir que tu vas être con tout le restant de ta vie. Ou que c'est pas vrai que parce que t'as tenu des propos déplacés ou que tu t'es comporté de manière cavalière une soirée auprès de jeunes femmes que tu es un abuseur, un harceleur ou un agresseur potentiel, tu comprends? Alors, toutes ces nuances, selon moi, sont absentes du débat. Et ce que je trouve le plus triste, c'est que ces jeunes femmes qui souffrent, cherchent à se faire justice elles-mêmes. Et on n'est plus au Moyen-Âge aujourd'hui, tu sais, tu ne peux pas te faire justice toi-même, ça ne fonctionne pas. Alors je me dis, s'il faut changer les lois pour inclure certains concepts qui sont absents actuellement du code criminel, par exemple, le concept d'inconduite sexuelle, bien faisons-le.
Parce que tellement de causes amenées devant les tribunaux qui aboutissent à rien en raison de la présomption d'innocence, qu'il y a bien des victimes qui craignent aujourd'hui faire appel aux tribunaux, préfèrent utiliser la voie, la place publique public pour...
Mais je comprends ça, Robert, mais ce n'est pas, selon moi, ce n'est pas la façon de faire. Tu dis, il y a des gens qui sont acquittés à partir du principe sacré du droit à la présomption d'innocence. Plus qu'un principe, c'est un droit qui est garanti par le code criminel. Mais c'est plus que ça, Robert, parce que quand tu vas en cours, tu fais la démonstration, tu tentes de démontrer que la personne que tu accuses a effectivement commis un crime. Si elle est acquittée, c'est parce qu'il n'y a pas eu démonstration du crime, tu comprends, allégué. Mais au-delà de ça, je comprends la frustration de toutes ces jeunes femmes qui disent « Attends une minute, là, c'est long la justice n'est jamais de notre bord parce que c'est ça le sentiment qu'elles ont. Alors, regarde, nous autres, le wake-up call, on va le faire de notre côté puis on va balancer tous ces hommes-là qui nous ont fait suer, qui nous ont traumatisés, qui ont brisé nos vies sur les réseaux sociaux. Mais toi puis moi, tu es capable de reconnaître qu'on ne peut pas fonctionner dans une société où on se fait justice soi-même. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Puis l'autre grand débat dans cette question-là, puis selon moi, c'est un tabou. Moi, je trouve qu'on leur fait très cher payer le prix pour la faute qu'ils ont commis. Le dossier de Marie-Pierre Morin, tu vois, c'en est un exemple. Moi, c'est mon opinion personnelle. Cette jeune femme a perdu tous ses contrats, des centaines de milliers de dollars. Écoute, elle a été ostratisée, stigmatisée. Et là, Québécois vient de... Ben, en fait, ils ont annoncé ça là, il y a quelques semaines. Elle joue dans la faille. Là. Peut-être oui. que tu suis ça à TVA. Non. Mais ils ont repris les tournages. Mm-hmm. Québécois et le producteur de l'émission, diffuseur et producteur, ont dit, écoutez, on va la réengager. Puis sa carrière, tranquillement, comme ça, elle va se réhabiliter sur le plan social, sur le plan télévisuel et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est des questions... Tu sais, Mané, c'est délicat comme sujet, parce que tu veux pas trop offusquer ces jeunes filles, mais en même temps, tu dis, attends une minute, là, c'est pas vrai qu'on peut condamner des hommes comme ça sans qu'on sur la place publique, qu'on se lance dans une espèce de chasse aux sorcières, qu'on les envoie au bûcher, et puis que finalement, on les condamne, à l'enfer pour le restant de leur jour, parce que mettre sa carrière, c'est moi sur pause. Moi, c'est quand même un prix important que Yann Perrault a payé. Alors, la question, c'est jusqu'où ça va s'arrêter, cette histoire-là, tu comprends? Il me semble qu'il faut trouver des solutions. Non, tu trouves pas?
Absolument, Nathalie. J'aurais aimé te répondre et te relancer même sur un autre sujet, mais le temps me manque.
Ah, une autre fois!
Il y a éclipse médiatique, Nathalie. et il faut tasser tous les sujets de l'actualité pour parler du Canadien.